Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts. Elle était l'impératrice du théâtre, la divine pour Victor Hugo et le monstre sacré de Jean Cocteau. Sacha Guitry l'appelait « Madame » en deux mots et disait d'elle qu'elle était absolument géniale, géniale à volonté et cela tenait du miracle. La grande Sarah Bernhardt est une femme hors norme. Ses talents d'actrice ont été mondialement et unanimement salués. Monstre de scène, elle l'a été sur les planches, devant la caméra, mais aussi dans la vie. Elle se permettait toutes les extravagances et on les lui pardonnait toutes. L'immense foule qui l'accompagne vers sa dernière demeure au Père Lachaise le 29 mars 1923 montre à quel point elle subjuguait ses contemporains. Elle est la synthèse accomplie de l'artiste et de la muse, comme le précise justement Evelyne Saez. Mais à l'instar d'Edmond Rostand, penchons-nous délicatement sur cette vie éblouissante et acceptons d'en avoir peut-être le vertige. Sarah est un être à part, entouré de mystères dès la naissance. Les archives de l'état civil ayant disparu sous la commune, rien, ni le lieu, ni la date exacte, et encore moins l'identité de son père, ne sont connus avec exactitude. On s'accorde à dire cependant qu'elle serait née le 22 ou le 23 octobre 1844 à Paris. Elle est la fille de Judith Van Hart, modiste et connue pour être une courtisane, et d'un certain Édouard Bernhardt, un père qui, selon ses différentes versions, appartiendrait à une famille d'armateurs du Havre. D'autres sources évoquent un officier de marine du nom de Morel. Enfin, quoi qu'il en soit, son père reste bel et bien inconnu et l'actrice gardera toujours le silence à ce sujet. Difficile également de connaître la vérité sur son véritable prénom. Certaines sources parlent de Sarah Marie-Henriette ou encore de Henriette Rosine, suivant le nom qu'elle avait donné lors de son inscription au conservatoire, qui précisait Rosine, dite Sarah. Délaissée par sa mère, qui choisit la vie mondaine à Paris, elle passe une petite enfance solitaire chez une nourrice en Bretagne. Sa mère la place ensuite dans un pensionnat, puis dans un couvent à Versailles. Sarah est une enfant rebelle, passionnée et volontaire. Elle sème le trouble et essaie de s'enfuir plusieurs fois. Elle n'hésite pas à se jeter par la fenêtre pour convaincre sa tante de l'amener avec elle. Une autre fois, elle restera toute une nuit dans un arbre du parc et y attrapera une pleurésie, la renvoyant immédiatement dans ses foyers. Dans ses mémoires, elle écrira « Mes colères étaient terrifiantes » et plus loin, elle ajoute « J'étais devenue une furie d'adolescente. Qu'allait-on faire de moi ?» Sa famille décide de faire d'elle une actrice, bien qu'elle n'ait pas du tout le physique de l'emploi. Elle est maigre et dotée d'une chevelure sauvage qui lui vaut le surnom de la négresse blonde. Pour Alexandre Dumas, elle ressemblait plutôt à une éponge sur un manche à balai. Elle est pourtant admise au Conservatoire d'art dramatique de Paris en 1859 sur la recommandation du duc de Borny, demi-frère de Napoléon III et proche de la famille. Quelques années plus tard, elle rentre à la Comédie française, mais se fait renvoyer pour avoir giflé une autre actrice. Elle part quelque temps à l'étranger et rencontre le prince de Ligne. De cette courte liaison, elle aura un fils, Maurice Bernhardt, l'homme de sa vie, comme elle aime à le dire. De retour à Paris, Sarah signe un contrat avec l'Odéon. Pendant cette période, elle se fait courtisane et reçoit un grand succès. Elle côtoie Georges Sand et Alexandre Dumas, qui lui confient le premier rôle féminin de Kean en 1868, tandis que Nadar fait d'elle son plus célèbre portrait. Elle se révèle en 1869 en jouant le passant de François Coppée. Quelques mois plus tard, la guerre éclate et Paris est assiégé par les Prussiens. Le théâtre est transformé en hôpital militaire et Sarah est présente et elle soigne le futur maréchal Foch qu'elle retrouvera 45 ans plus tard sur le front de la Meuse pendant la Première Guerre mondiale. Elle remonte sur scène en 1872 et triomphe dans le rôle de la reine de Ruy Blas. Victor Hugo, sous le charme, la surnomme la Voix d'or et ajoute « Voici une reine dont j'eusse voulu être le Ruy Blas ». Ce succès lui vaut d'être rappelée par la Comédie française, où elle joue dans Phèdre et Hernani. Vers 1874, alors qu'elle est une comédienne au talent reconnu, mais ne trouvant pas un rôle qui lui convienne, Sarah Bernhardt apprend le modelage, puis la peinture. Elle fréquente l'Académie Julian et présente au Salon de 1880 La jeune fille et la mort. Elle réalise également quelques bronzes, dont un buste d'Émile de Girardin et un de Louise Abéma, exposé aujourd'hui au musée d'Orsay. Un de ses autoportraits est présent au musée de la Fondation Bimberg à Toulouse. En 1880, elle démissionne avec éclat de la Comédie française et doit payer 100 000 francs or en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Qu'à cela ne tienne, elle crée sa propre compagnie et part faire fortune à l'étranger jusqu'en 1917. Ce fut un immense succès. Sous son chapiteau géant, de New York à Moscou et de Dakar jusqu'à Honolulu, le public lui fait un triomphe et les recettes se comptent en millions. Ainsi, elle se produit à Londres, à Copenhague et aux États-Unis. Elle affrète un train Pullman pour sa troupe et ses 8 tonnes de mal, et elle jouera même devant les Indiens. À l'occasion de sa tournée en Russie, Anton Tchekhov, alors chroniqueur au journal Le Spectateur, la décrit comme celle qui a visité les deux pôles, qui de sa traîne a balayé de long en large les 5 continents, qui a traversé les océans, qui plus d'une fois s'est élevée jusqu'aux cieux. Et il se moque de l'hystérie des journalistes qui ne boivent plus, ne mangent plus, mais courent, après celle qui est devenue une idée fixe. Ainsi, avec Sarah Bernhardt, la première grande star internationale, naissent également les premiers paparazzi. Elle devient l'une des très rares artistes françaises à avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Elle rencontre Oscar Wilde et lui commande la pièce Salomé, dont elle interprétera le rôle-titre en 1892. Elle fait également la connaissance de Thomas Edison et enregistre sur cylindre une lecture de Phèdre. La légende rapporte qu'elle aurait momentanément perdu connaissance en entendant sa voix. Entre ces différentes tournées, elle prend la direction du Théâtre de la Renaissance en 1893 et crée de nombreuses pièces contemporaines comme Gismonda, La Tosca ou Théodora de Victorien Sardou, La Princesse lointaine d'Edmond Rostand, Les Amants de Maurice Donnet ou La Ville morte de Gabriele D'Annunzio. Elle n'hésite pas à jouer des rôles masculins. Passionnée par le personnage de Hamlet, elle décide de monter la pièce de Shakespeare et joue le rôle principal. Elle monte également Lorenzaccio d'Alfred de Musset, une pièce pourtant jugée injouable. Elle contribue ainsi à la faire connaître 52 ans après sa création. En 1899, elle prend la direction du Théâtre des Nations, qu'elle rebaptise Théâtre Sarah Bernhardt, et elle crée L'Aiglon d'Edmond Rostand et joue le premier rôle masculin. « Si j'étais un homme, dit-elle, il me semble que j'aurais eu une si belle carrière. Toujours au théâtre, la parfaite aux hommes est la plus belle. Et c'est pourtant le seul art où les femmes peuvent parfois être supérieures aux hommes. » Elle met en scène chaque minute de sa vie et n'hésite pas à associer son nom à la promotion de produits de consommation. Ainsi, en avance sur son temps, elle devient la première star à faire de la réclame. Elle sera l'égérie des fameux petits lus, de phares à joues et de recettes. Et bien sûr, elle vantera les mérites de ses pièces. À partir de décembre 1894, elle fait appel à Alphonse Mucha pour dessiner ses affiches. Son style et sa silhouette inspirent la mode, les arts décoratifs, mais aussi l'art nouveau. Ses sauts d'humeur, ses caprices et ses extravagances font souvent scandale. Suite au décès de sa sœur, elle se fait faire un cercueil en bois de rose qu'elle installe au milieu de son salon et s'y repose régulièrement. Cela déclenche un véritable tollé parfait. Elle l'exploite immédiatement à son avantage. Des photos d'elle allongées dans son cercueil sont mises en vente ainsi que des cartes postales. Sarah Bernhardt fait ses débuts au cinéma en 1900 avec le duel d'Hamlet. Elle incarne à nouveau Hamlet et utilise ses talents d'escrimeuse. Elle tournera d'autres films, dont deux œuvres autobiographiques. C'est une femme de conviction. Elle se fait faire un sceau représentant un S et un B, barré d'une banderole portant la devise « quand même » et surmontée d'un masque tragique, d'une épée et d'une marotte, en référence à son audace et à son mépris des conventions. Elle apporte son soutien à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus, ainsi qu'à Louise Michel, et prend position contre la peine de mort. Elle a en partie inspiré à Marcel Proust, sans doute avec les comédiennes Rachel et Réjeanne, le personnage de l'actrice Laberma dans « À la recherche du temps perdu ». Son franc-parler est légendaire. À une jeune comédienne qui disait avoir joué plusieurs fois et n'avoir plus le trac, Sarah aurait répondu « Ne vous en faites pas, le trac, cela viendra avec le talent ». Le talent, elle le reconnaît et n'hésite pas à le soutenir, comme elle le fera avec l'actrice Marie Marquet qu'elle engage dans sa troupe. Elle jouera à ses côtés dans la cathédrale d'Eugène Morand en 1913. En 1915, sa santé se dégrade peu à peu et Sarah Bernhardt doit être amputée de la jambe droite à l'âge de 70 ans, en raison d'une tuberculose osseuse du genou due à des blessures anciennes mal soignées. Cela ne l'empêchera pas de rendre visite au poilu sur le front, en chaise à porteur, ce qui lui vaudra le surnom de « Mère Lachaise ». Elle ne cesse de jouer, de préférence assise. C'était une force de la nature, une puissance de vie à l'état brut. Sacha Guitry l'évoque ainsi quelque temps après son amputation. Elle était le courage personnifié. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein et depuis 15 jours avec une seule jambe. D'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait « Faut-il qu'il soit bête ?» Elle s'éteint pourtant le 26 mars 1923, en plein tournage du film de Sacha Guitry, La Voyante, des suites d'une infection rénale. Sarah Bernhardt était une femme entière et rebelle. Elle fut la première star mondiale et la première égérie publicitaire. Elle se fit couper les cheveux et fit partie des premières femmes à s'offrir un lifting. Elle joua plus d'une centaine de pièces, en écrivit quelques-unes. Elle fut peintre et sculpteur. Elle devint une icône des peintres de l'Art nouveau, que sa silhouette élancée a maintes fois inspiré. L'artiste le plus influencé par sa rencontre avec Sarah Bernhardt est sans aucun doute Alphonse Muchat, avec lequel elle collabore entre 1894 et 1901. Georges Clairin, Louise Abéma, Giovanni Boldini, Jules Lepage, Hans Marquardt, le plus célèbre des princes décorateurs autrichiens, qui eut pour élève Gustav Klimt, l'anglais Sir William Nicholson, le peintre belge Alfred Stevens, firent de nombreux portraits d'elle, et Léon Gérôme sculpta un très beau portrait également, en marbre polychrome. Elle fit plusieurs fois le tour du monde et se lança dans de nombreuses entreprises dont elle ne ressort pas toujours enrichie, loin de là, mais qu'importe. C'est son amour de l'art dramatique qui l'a toujours porté, et ce jusqu'à sa mort. De Napoléon III, Victor Hugo, Edmond Rostand, Oscar Wilde à Sigmund Freud, tous ont admiré le talent de Sarah Bernhardt. Mais laissons la conclusion à son plus grand fan, Sacha Guitry, qui écrit dans ses mémoires « Que l'on décrive avec exactitude et drôlerie, ainsi que Jules Renard l'a fait dans son admirable journal, sa maison, ses repas, ses accueils surprenants, ses lubies, ses excentricités, ses injustices, ses mensonges extraordinaires, certes. Mais qu'on veuille la comparer à d'autres actrices, qu'on la discute ou qu'on la blâme, il m'est impossible de le supporter. Il croit qu'elle était une actrice de son époque. Il ne devine donc pas que si elle revenait, elle serait de leur époque. »
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver à 7h30 et 13h30.